Si vous voulez bien saluer les auditeurs de Radio Transparence et Oxygène FM, dire bonjour aux auditeurs.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Elio Sazoulé. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, cher Daniel.
Merci. L'autre jour, donc, j'ai assisté au concert que vous avez donné à la salle Isabelle Sandy. Et pour vous présenter, vous avez attrapé votre clarinette. Alors, je ne sais pas si une clarinette ou un suprême clairon, vous allez me le dire. Et vous êtes présenté au public au travers de deux accords ou de deux notes au violoncelle. Et vous avez empoigné votre clarinette, votre clairon, et vous êtes présenté avec ça. Est-ce que c'est une façon habituelle de vous présenter?
Alors déjà, c'est une clarinette, le suprême clairon, c'est autre chose. On aura peut-être l'occasion d'en parler ou même d'en entendre, les savoir. Non, c'est bien une clarinette. Il me semble que, vous savez, parfois les curriculum vitae sont bien mornes et que si vous êtes là pour savoir qui est l'homme et le musicien qui vous a convoqué, enfin en tout cas le choix que vous avez fait d'aller l'entendre, parce que la première chose qu'il a à faire, c'est au moins de dire qui il est. Le meilleur moyen pour un musicien de parler, c'est de se taire et de souffler dans son instrument. Voilà.
Oui, parce que quand on regarde un petit peu sur les présentations qu'on fait de vous dans les livres autres, on voit performeur post-dadaïste, spécialiste du scandale, provocateur assumé, et puis après on voit bien sûr l'artiste, le compositeur, l'écrivain. Donc c'est vous évertuez à ce qu'on ne vous saisisse pas.
Non, mais vous savez, je crois que c'est une nature. Il y a des gens qui sont soluble dans l'institution. Et moi, je crois que je suis plutôt insoluble dans l'institution. Alors, vous savez, je veux bien qu'on me mette dans un tiroir, ça ne me dérange pas, mais le tiroir est dans un sacré bordel, en tout cas.
On est d'accord. Et dans ce concert de jeudi soir, il y a un parti pris que vous avez fait. La salle était quasiment vide, hein, on ne va pas le cacher aux auditeurs. Et vous avez fait le choix déterminé, je pense que c'est vous qui l'avez fait, de faire monter les quelques spectateurs, on était 25 je crois, sur scène, et de vous adresser à ces 25 spectateurs bien sûr, mais de vous tourner régulièrement sur la salle qui était vide. Et s'il y avait de votre part, par rapport au spectacle, quelque chose de puissant.
Nous jouions donc un répertoire rare, sublime et bouleversant, qui est le répertoire des musiques composées dans les camps de concentration. Ça fait presque 15 ans maintenant que j'interprète ce répertoire avec un ensemble que je dirige. Là, j'étais en duo avec une magnifique violoncelliste qui s'appelle Anne Sorion. Et oui, vous avez raison, la salle était grande et elle était peuplée d'absents. Donc, sur ces 25 personnes présentes, il m'a semblé qu'il était plus invitant et que ça ferait beaucoup plus écho de les emmener sur scène avec nous. Et naturellement, de se tourner de temps en temps vers cette salle qui, du coup, était vide sur notre droite, n'est-ce pas ? Et de ne pas oublier que finalement, nous jouons principalement pour les absents. Donc c'était un... Et vous savez, il faut être honnête, il y a des musiques qui sont difficiles, il y a des répertoires qui font peur. C'est quand on voit dans les programmes, d'ailleurs vous savez, c'est difficile pour un programmateur de dire « je vais jouer la musique des camps de concentration ». Bon, si on accepte ceux qui n'aiment pas ce répertoire-là, qui n'ont pas envie de parler de ce sujet-là parce qu'ils n'aiment pas, et c'est vraiment tant pis pour eux, mais on ne peut rien contre la bêtise à ce point-là. Voilà. Mais il y a aussi ceux qui ont vraiment peur du sujet en pensant que ce sera un moment juste triste, sordide, morbide, alors que c'est l'exact contraire. Puisque vous étiez là au concert Daniel, vous avez bien vu que ce moment-là était au contraire un grand moment de vie, d'existence. Bref, de musique, quoi.
Tout à fait. Et avec cette notion de distance, vous avez écrit quelque part, vous avez dit quelque part, plus juste est la distance, plus grande est la proximité.
Et j'ai dit ça peut-être ce soir-là, je ne me rappelle pas, mais je pense que oui. Non, une autre fois. écoutez, oui, je crois que dans une certaine mesure, il faut nous savoir jouer et finalement nous comporter avec la distance et un certain type d'éloignement. Vous savez, finalement, je crois qu'on ne comprend jamais mieux quelqu'un qui parle une langue étrangère pour parler d'une autre distance. Je crois que les amours d'été, puisqu'on en sort à peine, vous savez, où on tombe amoureux d'une Danoise, une Suédoise ou de quelqu'un dont on ne comprend pas un mot et puis alors on s'arrange à parler plus ou moins anglais avec elle. Ce sont ces amours-là qui nous laissent les sourires les plus intéressables. Ensuite, quand on parle le même langage que l'être qu'on aime et qu'on chérit d'ailleurs, c'est là que tous les malentendus de la vie s'étalent. Donc dans une certaine mesure, oui, il y a parfois dans cette distance apparente la possibilité d'une proximité sous la mer, je dirais.
Et moi, ce qui m'a aussi troublé ce soir-là, c'est la façon dont vous avez appréhendé les incidents de ce concert. On était 25, on a réussi à faire du bruit, on a réussi à ce que des gens se lèvent au milieu du concert, on a réussi à ce qu'un téléphone vienne perturber. Je me suis dit, quelque part, est-ce que ce n'était pas ces absents qui nous signalaient par des signes totalement improbables leur présence aussi?
Alors ça, c'est votre propre mystique.
Un autre concert, j'ai vu ça aussi.
Absolument, non, mais tout à fait. Je crois vraiment qu'il faut être capable de tout accepter. D'autant plus que ce répertoire, bon, après, si c'est un systématisme, c'est-à-dire si un téléphone sonne toutes les 3 minutes, il y a un moment où on ne peut pas éternellement se rattraper avec l'humour ou avec l'esprit, mais je crois qu'il faut être capable d'accepter les choses, me semble-t-il, d'autant plus que vous avez ces musiques-là qu'on joue, qui ont été composées à Auschwitz ou dans le ghetto de Vilnius, dans le ghetto de Lodz, à Treblinka, à Buchenwald. Vous savez, ce sont des musiques qui n'ont pas attendu le silence d'une salle de concert pour s'exprimer, pour dire ce qu'elles avaient à dire. Donc il faut quand même être capable, j'allais dire, presque par décence, d'accepter une petite perturbation. C'est pas si grave que ça.
Et par rapport à la tonalité du concert, pour ceux que ça effraie un peu, j'aimerais bien que vous lisiez, si vous acceptez, un extrait de votre ouvrage juste avant d'éteindre, qui parle du chemin des larmes.
Un matin, j'avais fait remarquer à papa que quand on pleure, les larmes partent de l'œil, font un petit arc de cercle et finissent sur la commissure des lèvres. C'est drôle d'imaginer que les larmes arrosent pile l'endroit précis de la bouche qui sert à sourire. Après l'école, le jour même de ma découverte, j'avais écrit un petit poème, Le chemin des larmes. Les larmes qui abreuvent les lèvres, qui irriguent le rire, et le rire montre les dents, et les dents montrent le squelette, et le squelette montre la mort, et donc la mort, c'est un gâteau avec des larmes et du rire. Je l'avais lu dans la cuisine avant de dîner. Mon père avait ri. Il était fier. Il avait dit que j'étais intelligent comme un philosophe géant qui fait des bonds d'île en île.
Magnifique, magnifique. Merci. On va passer peut-être un peu à une partie de votre œuvre, donc l'œuvre musicale, hein, parce que vous avez écrit, on reviendra un peu sur un roman qui vient de paraître, un recueil qui vient de paraître, pour Thomas. Et parmi ces œuvres-là, donc, vous en avez fait deux CD avec un groupe qui s'appelle l'Ensemble de musique incidentale. Je vais citer les noms, Marielle Rubens, Pablo Schatzmann, Théona Karatse, Baptiste Vey et Dimitri Maslift.
Absolument.
Et donc, il y a eu plusieurs opus, un qui s'appelait Sauver les cendres, et parmi ces titres que vous avez choisis, qui ont été exhumés, il y en a un en particulier autour de Jeanne d'Arc. Voilà, donc le lien assez fort entre le camp dont il s'agit, c'est le camp de Theresienstadt, ou Thérésine, exactement, et ce compositeur Victor Ullmann. Voilà, le choix de ce texte, dont on va entendre quelques morceaux, quelques passages, et du texte et de la composition que vous en avez faite.
Oui, Victor Ullmann était un compositeur, un très très grand compositeur, élève de Schoenberg, et il a été déporté à Thérésine. Et avant de finir son passage à Thérésine, et au moment où il était là-bas, nous sommes à 50 km au nord de Prague environ, il a écrit là-bas des œuvres de musique extraordinairement belles, d'une densité incroyable, mais il a laissé un fragment de pages pour piano, deux dérisoires pages pour piano, un prélude inachevé pour un opéra dont il avait d'ailleurs écrit le livret, deux actes en vers rimés. Voilà. Une Jeanne d'Arc, l'œuvre s'appelle, ou aurait dû s'appeler, le 30 mai 1431. Et il y avait à la fois dans ce déséquilibre entre ces deux actes en vers rimés que j'ai traduits, que j'ai publiés dans un livre précédent, et les deux pages de piano brutalement interrompues, il y avait une espèce de contraste, non pas de contraste, de déséquilibre, une espèce d'indécent déséquilibre du silence. C'est pas un inachèvement à la Mozart, ou quand on dit « ou un silence à la Mozart », quand on dit « après Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart ». Non, là, après Victor Ullmann, après cette œuvre inachevée, le silence qui suit, c'est le silence de la mort. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose d'important à réparer. Et donc j'ai pris ces deux pages et je m'en suis servi, si vous voulez, comme réservoir à une œuvre nouvelle qui ressemble pour le coup à, puisque je suis compositeur vraiment, à une œuvre des vieux sazonés, si vous voulez, mais complètement gorgé de cette musique sublime et inachevée. Et c'était un moyen pour moi, très naturellement, ce n'était pas conceptuel, hein, c'était un moyen pour moi de remettre dans le jeu de la vie l'existence de ces œuvres. C'est pour ça que je dis ce sont des concerts de vie. Je le dis à tous ceux qui pourraient nous entendre, tous les programmateurs, ne vous dites pas, oui, les gens vont pleurer et deux minutes après, ils vont éclater de rire. Je veux dire que la musique, pardonnez-moi, je veux dire un peu brutalement, mais la musique, c'est la vie. Les compositeurs qui sont là, qui étaient là, qui composaient, avaient cette espèce de force sublime, éclatante de vie, d'existence, d'absorber le présent qui était de l'heure, le leur, et nous le rendre de manière tellement incroyable. Et la musique, non seulement elle est présente, mais la musique est la présence du présent. C'est ce qui rend ce concert, puisque vous étiez, cher Daniel, vous pourriez le dire à ma place, c'est peut-être un peu indécent pour moi de le dire, je ne vais pas être, disons, un peu orgueilleux, mais c'est ce qui fait que ce concert est un moment unique.
Tout à fait exceptionnel.
Merci beaucoup, c'est beau. Vous allez être au-delà de mes espérances. Mais je le crois vraiment. C'est vraiment un moment d'intensité, mais parce que c'est un moment de présence réelle. Ce n'est pas un moment morbide ou, honnêtement, mon concert est mille fois moins morbide qu'un pianiste qui vient nous annoncer Chopin, Mozart et Beethoven pour la millième fois de sa vie. Hein.
Ou Wagner.
Alors
je vais renvoyer, je ne vais pas les lire forcément, mais les pages sur Wagner que vous faites juste avant d'éteindre, assez savoureuses. Et pour situer juste le contexte, donc c'était un camp très particulier, Térésine, donc c'est la malédiction du don, puisque Térésine c'est pour offrir, je vous cite, en hommage à la monumentale Marie-Thérèse d'Autriche, son fils Joseph II, empereur du 7 Empire romain, Germanie pose un doigt un peu au-dessus de Prague, à 60 km, et ordonne d'y faire ériger une citadelle. Donc ça, c'est l'histoire de la ville de Térésine, qui a été accaparée par les Allemands, et qui en ont fait un ghetto dans lequel ils mettaient des Pragois, mais également des Juifs qui venaient du camp, ou d'autres personnes. Et le contexte est quand même assez particulier pour écrire de la musique. On va voir après qu'il y en a qui dessinaient, quand on voit le contexte dans lequel ça se déroulait.
Vous avez fait référence à deux livres, publiés tous deux aux éditions du Rocher. La première lecture que j'ai faite tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait encore des pages à lire sur Wagner. C'est un roman qui s'appelle « Juste avant d'éteindre ». Et dans l'année qui a suivi cette écriture, je publie toujours aux éditions du Rocher, il est sorti au mois de janvier dernier, un livre intitulé « Pour Tommy », qui est un recueil, un livre pour enfants, dessiné par un homme, Bedřich Špeta, qui était peintre là-bas pour son fils de 3 ans. Et c'est un chef-d'œuvre d'amour, de soleil, d'intensité et de joie, aussi curieux que cela puisse paraître. Et vous me demandez d'évoquer le contexte de cette époque-là. Eh bien, si vous permettez, je vais donc vous lire un extrait de mon texte qui accompagne pour Tommy. L'ombre avale les Juifs. Interdiction de se rendre au théâtre. Interdiction d'aller au cinéma. Interdiction d'aller au concert. Ni même à une manifestation sportive, et interdiction de posséder une radio, interdiction de posséder un appareil photo, interdiction de posséder un phonographe, interdiction de posséder une machine à écrire, interdiction de posséder un instrument de musique, interdiction d'utiliser un téléphone, et interdiction de porter une fourrure, et interdiction de posséder une paire de skis, et pas de journal, et pas de fruits, et pas de sucre, et pas de cigarettes, interdiction de posséder un chien ou un chat, et pas le droit de se promener dans un parc, et on ne dit pas bonjour à un larien, même si c'est votre ami. Et si c'est votre ami, il a tout intérêt à ne pas vous dire bonjour. Couvre-feu à 8h du soir. Les Juifs avalent de l'ombre. Ça dénonce à Prague. C'est le triomphe des concierges. Et dehors, l'étoile jaune. Et chez toi aussi, puisqu'elle est cousue sur toutes les vestes, toutes les chemises, toutes les robes. Même chez toi, on te désigne. Même ton miroir te dénonce.
Dans ce contexte, des perles, des choses magnifiques ont été composées, et en particulier, vous les présentez dans le concert de Jeudi en Castelka, des berceuses. De nombreuses berceuses ont été écrites parmi beaucoup d'œuvres. Hein. Mais c'est vraiment particulièrement touchant. Donc, ce choix que vous faites aussi de présenter particulièrement ces berceuses. Qu'est-ce que la berceuse représente, vous l'expliquez dans le...
Oui, la berceuse, c'est l'anti-spectacle par excellence. Et je crois qu'il y a bien un sujet pour moi, selon moi, qui surtout ne doit pas s'achever dans la forme spectacle, c'est bien ces musiques-là. Je veux dire que si on va jusqu'au bout d'un spectacle, qu'est-ce qu'on fait? On vient habillé en pyjama rayé avec une étoile jaune et on joue la musique des camps. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Il ne s'agit pas de mettre cela en scène. Il s'agit d'accepter d'arriver sur scène dans le désordre de cette affaire qu'on a beaucoup étudiée, on a beaucoup lu, beaucoup joué. Je ne sais pas, j'ai donné peut-être 200 et 300 concerts de ces musiques-là. Je ne sais toujours pas vraiment pourquoi je suis là. Et pourquoi les berceuses? Parce que la berceuse, c'est un boom. La berceuse, c'est l'ultime survivance de la sorcellerie par la musique. La berceuse, c'est une mère ou un père qui chante pour un enfant. C'est le trajet le plus court de l'amour, le plus simple. Bon. Et parmi le répertoire de ces 5 à 7 000, même plus, partitions, on dénombre aujourd'hui qui ont été composées dans l'école, il y a des petites berceuses. Et croyez-moi, ces berceuses-là, elles sont bouleversantes. J'allais dire renversantes dans le sens où vous retrouvez vraiment la tête au sol et les pieds en l'air. Et j'adore. Et je crois que c'est véritablement très, très poignant pour moi et pour les musiciens avec qui je les joue de les interpréter, mais également pour le public, parce qu'il est renvoyé à l'amour d'un père, à l'amour d'une mère, et aussi la faiblesse d'un enfant, ou même son absence. Donc je crois qu'il y a quelque chose là de très, 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 très beau.
Et vous avez écrit aussi, en parlant comme ça dans des citations, « Elle soulageait les enfants avec le baume d'une berceuse qui contenait un peu de lune.
» Oui, c'est...
Je pensais que c'était pour Ilse Weber en
particulier. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait, oui, tout à fait raison. Oui, Ilse Weber était une femme qui était infirmière dans le camp de Thérésine, toujours, et qui était infirmière à l'hôpital pour enfants. Mais on imagine bien qu'un hôpital pour enfants dans un camp ne possède rien pour soigner qui que ce soit. Donc cette femme, qui était une femme qui possédait cette dose sublime d'infini et de poésie avec elle, n'était pas une grande poétesse, vous voyez, c'était pas une grande musicienne. Mais ce qu'elle avait trouvé, le seul baume qu'elle employait, c'était celle de petites chansons qu'elle composait. Elle nous a légué 8 petites choses, presque rien de musique, et sublime d'infini et de tendresse. Voilà, et peut-être était-ce pour elle le seul moyen de faire du bien et de soigner l'âme de ses enfants.
Et ce qui m'a un peu manqué dans le concert de jeudi soir, pour des raisons que vous avez expliquées, c'est qu'il n'y avait pas d'interprète, notamment Marielle, ces titres, enfin, on l'écoutera dans ce domaine-là, mais il y a à la fois la mélodie qui est poignante, mais également les paroles. Par exemple, Under Regen Rit et la pluie tombe, c'est mignon, quoi. C'est...
Ah, pour moi, c'est même plus que ça. Pour celle-là, en plus, si c'est celle-là que vous voulez faire entendre, je veux dire, pour moi, je la trouve remarquablement belle, bien, mignon dans le sens où allons-y sur le mignon, non, mais c'est très très bien mignon. Vous avez raison, c'est mignon, c'est tendre, c'est beau, c'est souple, c'est léger, c'est délicat. Et la pluie tombe, Unter der Regen Rit. Mais malheureusement, Marielle Rubens ne pouvait pas être là. Mais elle a été, je crois, merveilleusement remplacée par la voix du violoncelle d'Anne Mousserion, avec qui je travaille depuis un certain nombre de temps maintenant. Et c'est toujours un plaisir d'entendre le violoncelle venir chanter à la place de la voix. Vous savez, les paroles racontent et la musique raconte aussi bien, parfois même sans les paroles.
Et vous nous avez fait chanter, fredonner, on va dire, un certain nombre de ces berceuses. Il y avait notamment, alors celle-là on n'a pas chanté, mais on l'écoutera aussi, Stiller, le silence.
Silence.
D'Alexander Volkov.
Oui, absolument, oui. Stiller, c'est une petite berceuse qu'un enfant a composée dans le ghetto de Vilnius. Il a composé un enfant qui compose une petite berceuse. Il y a quelque chose de bouleversant, de tragique. Et c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est une... Silence. Stiller, c'est du yiddish. Silence. C'est magnifique. Écoutez, je crois que c'est un des chefs-d'œuvre d'innocence et d'élégance. Je ne dirais pas que d'innocence, c'est très, très élégant de ces musiques composées en l'état.
Tout à fait. Et on écoutera aussi aussi une autre berceuse, cette fois-ci d'Aaron Liebeskind. Donc celle-ci est beaucoup plus, elle est plus on va dire directe, une berceuse pour le fils au crématorium. Là, il y a vraiment, moi j'ai pris la traduction pour essayer de comprendre bien sûr la puissance des mots au-delà de la musique. Et là, il y a aussi quelque chose de poignant dans ce texte-là.
Oui, là, c'est une berceuse qui a été composée par Aaron Liebeskind. Donc Liebeskind, en plus, ça veut dire l'enfant aimé. Pour son fils qu'il tenait dans les bras, qui venait d'être assassiné dans le camp de Treblinka, et il a pu garder la dépouille de son fils avec lui toute la nuit avant qu'on ne jette le corps de ce petit gamin dans ce qu'on appelait là-bas le grill, parce qu'il n'y avait pas de four crématoire à Treblinka. On brûlait dans une espèce d'affect infâme et abject barbecue des corps par milliers, et là, lui, ayant été gardé en vie par il fallait bien qu'il y ait quelques juifs qui s'occupent des morts et des cadavres, et bien, il a demandé la possibilité de garder son fils avec lui toute la nuit, et il a chanté une petite berceuse. La manière dont elle est parvenue jusqu'à nous est tellement dingue, tellement délirante, tellement labyrinthique, tellement miraculeuse au milieu de cette catastrophe, que chaque note résonne comme un miracle malgré tout, mais elle est particulièrement bouleversante.
C'est aussi le cas de ce miracle, de ces dessins que vous avez commencé à présenter tout à l'heure pour Tommy. Donc là, c'est une autre histoire, c'est pas une œuvre musicale, c'est une œuvre pas littéraire, mais picturale. Ce sont des dessins vraiment, quand on les regarde extraits du contexte, ce sont des dessins pour un enfant qui vient d'avoir 3 ans. On voit qu'il fait pipi, qu'il fait caca, qu'il joue à l'avion, qu'il se déguise. Voilà, il y a toute la vie d'un enfant de 3 ans qu'on connaît. Et là, l'histoire du père qui a rédigé, qui a fait ce cadeau à son fils de 3 ans dans le ghetto, est particulièrement également extraordinaire qu'elle soit arrivée jusqu'à vous.
Oui, absolument. Vous savez, c'est une... Déjà, toutes les œuvres qui viennent de là-bas, qu'elles soient dessinées ou qu'elles soient musicales, puisqu'on parle, elles viennent à nous par un miracle d'âme. Enfin, Bedřich Fryta était là-bas, donc c'était un caricaturiste pragois engagé communiste à l'époque, avant que la guerre ne le rattrape. Et bien sûr, ses origines juives, il est envoyé à Térésine. Et là-bas, les nazis lui ordonnent de prendre la direction d'un département de dessin technique, autrement dit, toutes les semaines, il devait produire des dessins avec un nouveau groupe de dessinateurs et de peintres, des dessins, vous savez, des plans, des graphiques. Enfin, la commandanture était complètement hystérique. Il a fallu des dessins, et notamment aussi des dessins de propagande que les nazis espéraient utiliser pour dire qu'à Térésine, il faisait bon vivre. Bon. Mais dans la clandestinité, Bedřich Fryta, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné la réalité de l'existence là-bas, c'est-à-dire la faim, la soif, comment tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards étaient cernés par la mort, la crasse. Et il avait fait son fils et sa femme qui étaient là, et puis son fils de 3 ans, le petit Tommy, qui a eu 3 ans le 22 janvier 1944. Et pour l'anniversaire des 3 ans de son fils, il lui a dessiné 52 petites aquarelles. Mais qui sont... Mais oui, c'est l'innocence complète. Je veux dire que c'est un livre, et moi je le recommande, et il ne s'agit pas là d'un argument de vente, mais c'est un livre que n'importe quel passionné d'histoire peut acheter. N'importe quel passionné de dessin peut acheter, mais également n'importe quel enfant. Je veux dire qu'on peut être pas une maman, un grand-père, une grand-mère, et offrir ce livre-là à un enfant, il ne trouvera la trace d'aucun traumatisme. Ce livre-là était une façon de donner à boire du soleil à un enfant qui n'avait rien à bouffer dans ce temps. Et c'est ça qui fait que ce livre est une grande éclaircie, si vous voulez. Il me semble, je le crois, maintenant que je le fréquente depuis pas mal de temps et que le succès de ce livre-là est très très grand et je m'en réjouis infiniment, il me semble que c'est aussi ce qui explique l'engouement autour de ce livre, c'est que d'un seul coup, vous comprenez que la vérité, c'est l'exact inverse de ce que vous avez devant les yeux. Plus cet homme-là donne du soleil, plus vous savez que la vérité derrière est atroce. Et cette espèce de dessin qui raconte deux histoires, celle que l'homme nous donne et qu'il donne à son enfant, et en même temps toute l'histoire qui nous cache, fait que c'est absolument dramatique, sublime et bouleversant. Et pour accompagner ces dessins, parce que je ne pouvais pas, il ne s'agissait pas de les expliquer, il fallait donner des explications. sélection historique, bien sûr, et c'est ce que j'ai fait. Hein. Il y a un texte qui le contrepointe, si vous voulez, et ce texte-là permet eh bien, de raconter l'histoire de Bedřich Fleta, de raconter l'histoire de ce petit enfant Tony, parce que Bedřich Fleta va se faire assassiner à Auschwitz, tout simplement parce qu'on va trouver ses dessins. Et il va être déporté avec un ami peintre vers Auschwitz, qui lui aussi était un peintre résistant. Ils n'ont pas avoué où ils avaient caché leurs dessins, parce que la veille de leur arrestation, ils ont su qu'ils avaient été trouvés. Ils ont profité donc de ces 24 heures à peine pour foutre tous les dessins dans une... Bah, pardonnez-moi, je dis foutre, mais on s'en fiche, parce que je pense qu'ils étaient dans ce truc-là. Et bah, bon, non, là, ils ont tout foutu de manière complètement dingue, des dessins dans une malle. Bedřich Fleta a mis 300 dessins dans une malle qu'il a enterré dans la cour d'une vieille ferme. Il se fait torturer le lendemain par Eichmann lui-même qui fait le déplacement pour torturer ses peintres. Vous voyez, c'était une très très grande affaire, ce qu'on appelait l'affaire des peintres. Et personne n'avoue, aucun des peintres n'avoue ces dessins qui racontent la vérité qu'ils espéraient pathétiquement faire sortir pour que le monde réagisse. Mais vous vous rendez compte de quelle espérance folle ils devaient. Torturés, ils sont donc envoyés à Auschwitz. Tommy, lui, et la mère de Tommy sont mis dans un cachot de Térésine. Les trois, avec une toute petite fenêtre qui s'ouvre et qui laisse à peine un petit peu de lumière. Ils sont enfin 25 dans un cachot comme ça. Bon. Et dans le chemin qui les mène vers Auschwitz, et où Bedřich Fleta mourra une semaine plus tard, à peine après son arrivée, ils s'avouent, les deux peintres, là où ils ont planqué leur œuvre. Et Bedřich doit dire à son ami Léo, c'est là où j'ai mis les dessins, tu creuses, voilà, la malle avec les dessins sur la main. Et Léoas, un mensch, comme on dit en yiddish, un homme, lui fait une promesse de mensch et lui dit, écoute, si jamais tu devais périr, si jamais je devais vivre, moi, après la guerre, j'adopterai ton fils, Tommy. Et c'est exactement ce qui va se passer. Léoas va survivre, Bedřich Fleta va mourir, et quelques jours à peine après la guerre, il retourne à Térésine, à Prague, n'est-ce pas? Et il retrouve le petit Tommy. La maman de Tommy était morte entre-temps, mais sa femme, à lui, avait survécu, il avait sauvé le gamin. Il y avait cette femme qui était là, qui avait sauvé le gamin dans cette cellule. Et il déterre les dessins. Et tous ces dessins clandestins, dans cette malle, en dessous de tous ces dessins clandestins, et comme je vous dis, 300-400 dessins, c'est énorme. Hein. C'est pas une petite malle, c'est immense. Bon. Eh bien, il y avait ces 52 petits aquarelles pour Tommy qui sont un chef-d'œuvre d'amour, d'héritage, et il faut l'acheter.
Et vous avez rencontré le fils de Tommy récemment, qui vous a montré, qui vous a fait toucher avant que les dents, soient indispensables pour le toucher. Bon, c'est une autre histoire. Alors, pour terminer, peut-être pour prolonger, le rire est important. Sur scène, cette joie de vivre, c'est ce fait qu'il faut faire vivre ces dessins, non pas les considérer comme des reliques, ces dessins, ces œuvres et autres. Et après, vous avez-vous, dans votre ressenti de l'époque, vis-à-vis des bourreaux, vis-à-vis des nazis, une technique pour les déstabiliser, ou en tout cas pour faire, pour vraiment dire ce qu'ils sont, mais aussi au-delà de ce qu'ils sont, au niveau des noms. C'est la, ce que vous faites avec les noms de ces effectivement, personnages qu'on connaît, Eichmann, etc., ou Mengele, je pense que sur Mengele, il y a vraiment... Vous avez choisi de vraiment de dire qu'il faut oublier leur nom pour reprendre les noms de toutes ces personnes.
Vous savez, je crois que si demain on faisait un micro-trottoir dans la rue et qu'on demandait aux citoyens de donner le nom d'un terroriste, par exemple, du Bataclan, de ce qu'on a vécu, quelque chose de proche de nous. On connaît ces noms-là. Par contre, je suis certain que si on demande le nom d'une victime, personne n'est capable de donner le nom d'une seule victime des attentats qui ont arraché la France à sa chouette tranquillité quand même. Parce qu'on était vraiment bien avant ça. C'est pareil avec les nazis. Je crois qu'on les connaît, ces nazis. Ça va, c'est bon, on les connaît. Hein. Fayard, nous republie Mein Kampf avec des notes de bas de page comme si c'était l'alpha et l'oméga de ce qu'il fallait faire. Je trouve que c'est une honte abjecte. Et croyez-moi, les quelques survivants qui restent de la Shoah, d'Auschwitz, d'autres camps, ne se réjouissent pas de ce qui fait tant exulter quelques historiens en mal de nous dire et de nous préciser que Mein Kampf, c'est un livre de gens pas bien. Bon, ok, très bien. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent finir dans l'oubli et même un peu les abîmer. Et je préconise, oui, d'écrire les noms avec des fautes d'orthographe. Vous savez, mais je vais vous dire qu'est-ce qui m'a donné ce truc-là. J'étais en train de composer une pièce à Quatuor à cordes que j'ai dédiée d'ailleurs à une femme que j'adore, qui s'appelle Violette, Jacqueline Silberstein. Elle était violoniste dans l'orchestre d'Auschwitz, c'est une très belle amie. Et j'ai composé pour elle une pièce qui s'appelle La rêverie de Mengele. Alors ce n'était pas du tout un hommage à Mengele, bien au contraire, si vous voulez, c'était même un anti-hommage. Et c'est une pièce qu'elle a entendue, qu'elle a adorée. Enfin, j'étais très heureux de cette amitié avec elle. Et simplement, au moment de ma composition, que je composais, le manuscrit était sur mon bureau, et il y a un gamin qui passe, tout petit à l'époque, qui venait l'apprendre à lire, et qui passe devant le manuscrit de cette œuvre, et il y avait marqué, donc, moi j'avais noté La rêverie de Mengele. Et mon fils me demande avec sa petite voix, son innocence sublime, il me dit, papa, c'est qui Mange-le ? Et ça, j'ai trouvé ça superbe. Vraiment, ça suffit. Redonnons et remettons dans le jeu de la vie celles et ceux qu'on n'a pas le droit d'enterrer par l'oubli. Les morts ne sont pas morts pour qu'on les enterre à coup d'oubli. Et enfouissons et salissons autant que faire se peut le nom de ces tortionnaires et ces assassins qui ne méritent absolument pas qu'on soit si précis que ça, avec même l'orthographe de leur nom.
Moi, je vous pose une petite citation, donc sur toujours pareil, le même livre, sur la façon d'interpréter les morceaux. Donc, c'est le numéro 3, vous allez trouver, voilà, ici.
C'est un moment dans le roman, donc juste avant d'éteindre, aussi aux éditions du Rocher, où il vient se passer quelque chose de terrible, une scène burlesque terrible à la fois, et le personnage principal, qui est un juif. Évadé de camp, évadé dans un rêve, évadé vraiment, rien n'est conclu dans le roman. Voilà ce qu'il dit. Je me suis assis au piano. Le clavier me semblait à des kilomètres. Mes doigts ont retrouvé le chemin d'une des romances sans parole de Mendelssohn, l'andante de l'opus 102. Une œuvre qui ne fait de mal à personne. 8 majeur, les touches blanches. Le génie de Doremi Fa Sol La Si Do, c'est tout. C'était pour nettoyer. J'ai hésité. L'œuvre du début à la fin. Comme si elle était en train de naître. C'est comme ça que tout devrait s'interpréter. Oui. Dans l'hésitation de naître.